Stop, c'est parti.
Devant la télé.
Nous allons parler de l'information.
MJV. Les journalistes m'intéressent.
You are fake news.
Hello.
Bienvenue à vous tous. L'instant M, c'est court, mais ça en dit long.
Et vous coupez?
Non, je vous plains.
Vous êtes en direct, allez-y.
Palme d'or spécial à Cannes, Jean-Luc Godard a pensé son dernier film pour le cinéma. Il passera finalement à la télévision. Ce soir, sur Arte, vous verrez s'entrechoquer des trains de tous les pays, des fleurs de toutes les couleurs, le djihad, la Wehrmacht et l'armée napoléonienne. Enfin, vous verrez le monde arabe dans son entièreté. Plus de scénarios, plus de tournages, comme si le cinéma avait pour unique matériau le patrimoine mondial de l'image et pour unique langage, le montage. Le film s'intitule « Le livre d'images ». Il puise à toutes les sources qu'il entremêle, cinéma, télévision, internet, photojournalisme, peinture, bondieuserie, propagande, bande dessinée. Et ce faisant, il traduit de l'image la puissance picturale, puis la puissance politique, puis la puissance métaphysique. Peur de rien y comprendre? Eh bien, je suis comme vous, chers amis, intimidée. Alors j'ai cherché quelqu'un pour nous prendre la main et pour nous emmener, ce soir, regarder la télé.
L'instant M. Sonia de Villers, sur France Inter.
Quand un siècle se dissout lentement dans le siècle suivant, quelques individus transforment les moyens de survie anciens en moyens nouveaux. Ce sont ces derniers que nous appelons art. La seule chose qui survive à une époque, c'est la forme d'art qu'elle s'est créée. Aucune activité ne deviendra un art avant que son époque ne soit terminée. Ensuite, cet art disparaîtra.
Donnez-nous la main, Frédéric Bonneau. Bonjour.
Bonjour.
Directeur de la Cinémathèque française. Le livre d'images est donc diffusé sur Arte à 22h30. Alors, avant, après, pendant, quand vous voulez, il y a pour vous sur le site de France Culture un très long et très bel entretien que Jean-Luc Godard a accordé à notre consoeur Olivia Gisbert. Écoutez-le, parce que c'est rare d'entendre Godard. D'ailleurs, il ne parle plus que dans ses films, comme ça. On sait où trouver cette voix éraillée. Alors, nous, téléspectateurs d'Arte, Frédéric Bonneau, j'ai dit, nous sommes intimidés, parfois d'avance découragés. On sent bien que la chaîne veut nous rassurer.
Souris-moi. Bon, je compte jusqu'à 8. Si à 8 tu ne m'as pas souri, je t'étrangle. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 et demi, 7, 3 quarts. Tu es tellement lâche que je parie que tu vas sourire.
En prime time, Arte diffuse à bout de souffle, emblème de la nouvelle vague, 1960, Jean-Paul Belmondo, amoureux de Jean Seberg, cerné par la police. Comment, Frédéric Bonneau, peut-on passer, nous, téléspectateurs, d'à bout de souffle au livre d'images ce soir? Comment comprendre que c'est le même cinéma ou le même cinéaste?
En acceptant ça, en ne s'énervant pas, en se disant qu'il n'y aurait pas eu beaucoup d'intérêt pour Jean-Luc Godard de refaire À bout de souffle toute sa vie.
Oui.
Maintenant, il y a des cinéastes qui font ça, on va pas donner de nom parce qu'on n'est pas là pour être désagréable avec qui que ce soit. Mais À bout de souffle, même il ne l'a fait qu'une fois. Godard, oui, il fait ses films une seule fois, c'est pour ça qu'il est si grand, c'est pour ça que c'est un cinéaste et c'est pour ça que c'est Godard. À bout de souffle, il faut comprendre que ça a toujours été populaire. C'est son film, ouais, qui a marché vraiment. Ça a été un vrai succès public, un vrai succès populaire. À bout de souffle, faut comprendre, c'est vraiment le film de quelqu'un qui a vu beaucoup de films policiers américains et qui a lu beaucoup de séries noires. Mais il ne fallait pas attendre de lui qu'il fasse ça toute sa vie.
Non. Alors, qu'est-ce qui reste de ce cinéma-là, dans le cinéma d'aujourd'hui? Est-ce ça, qu'il en reste quelque
la
chose?
La question, là, pour le coup, est vraiment très bonne et très difficile. Mais oui, ce qui reste, c'est l'intégrité et c'est la liberté. C'est quelqu'un qui est en recherche permanente.
Si on disait que la nouvelle vague, en simplifiant, c'était le refus du carcan du scénario,
on pourrait dire ça autrement, Sonia, on pourrait dire la nouvelle vague, c'est Jean-Paul Belmondo qui est sublime dans son caleçon et qui dit à Jean Seberg, est-ce que je peux pisser dans ton lavabo? Non mais oui, c'est ça à bout de souffle. Oui. Vous imaginez Jean Gabin dans En cas de malheur de Autant Lara en train de dire à Brigitte Bardot, je peux pisser dans le lavabo? Non.
Non.
Et ben voilà, c'est ça une révolution esthétique, ça tient aussi à ça.
Alors, Alors c'est une révolution esthétique, c'est aussi une révolution en termes de grammaire du cinéma. Est-ce que là, le livre d'images, c'est l'aboutissement de ce processus-là, c'est-à-dire du scénario, il n'y a plus d'histoire d'ailleurs. La narration, elle devient extrêmement énigmatique.
Alors d'abord, face au livre d'images, j'ai envie de vous dire, moi je suis comme vous, c'est-à-dire que je ne comprends pas tout, je ne saisis pas tout, ça va très vite. Je n'ai comme seul avantage d'être quelqu'un qui, je crois, a vu quasiment tous les films de Jean-Luc Godard, et en particulier qui a vu ce moment décisif que sont ces histoires du cinéma. Oui. C'est-à-dire que Godard, il s'est affranchi...
En 88 et en 98.
Absolument. Il s'est affranchi de quelque chose dont ne s'affranchissent pas d'habitude les cinéastes. C'est la représentation classique du cinéma, c'est-à-dire le spectacle, c'est-à-dire les acteurs. Pourquoi le livre d'images déroute ? Tout simplement parce qu'il n'y a pas d'acteurs. C'est-à-dire que là, Godard ne passe plus par cette représentation-là. Peut-être aussi parce qu'il est dans un très grand état de solitude. Il a fait des films romans, si vous voulez. Pierrot le Fou, c'est un roman. Vraiment, c'est un roman. Et même, il y a Céline pour attester qu'on est dans le roman. Le Mépris, c'est un roman de Moravia. Donc, évidemment, pour vous, pour moi, pour tout le monde, les films romans, c'est plus facile que les films essais. Et les films romans se vendent mieux que les essais. Ouais. Tout le monde sait ça. Mais ça ne veut pas dire que l'essai est incompréhensible. Non. C'est simplement que, comme vous le disiez très bien, il a toutes les images du monde à sa disposition, y compris les siennes, y compris ses propres films. Et plutôt que d'aller chercher des comédiens pour créer des nouvelles images, il prend les images existantes et il en fait du collage, on dirait en peinture. Ouais. On est au cinéma, donc on ne parle pas de collage, on parle du montage.
Alors, par exemple, j'essaie de prendre des choses toutes simples, toutes simples en apparence. Pourquoi depuis si longtemps Godard éteint-il la lumière ? Pourquoi, alors que commence une séquence immédiatement reconnaissable, à mon petit niveau de cinéphilie à moi, de Johnny Guitar, pourquoi interrompt-il l'image, et pas le son, par un écran noir ?
Don't go away.
I haven't moved.
Tell me something nice.
Sure. What do you want to hear?
Lie to me.
Elle parle, John Crawford. Et nous, le spectateur,
on est drôle, c'est que
hypnotisé par son regard.
Oui, quand j'entends ça, j'entends la VF, en fait, parce que je l'ai souvent vu à la télé de Johnny Guitar. Donc elle lui dit, qu'est-ce qu'il y a, tu veux que je te dise des mensonges?
Voilà. Et moi, quand j'entends ça, je ne vois que les yeux mauves et incandescents de John Crawford. Mmh. Et qu'est-ce qu'il fait Godard? Il met un écran noir. Et il nous prive de l'image.
Oui, mais en même temps, vous le reconnaissez, vous savez ce que c'est. Pour qu'une citation résonne, ce qu'il veut, en fait, c'est que la citation résonne. Ouais. Pour qu'elle résonne, il faut la triturer un peu en musique. On fait ça tout le temps, ma foi, et ça ne choque personne. Les jeunes musiciens, ils prennent sans arrêt des thèmes archi connus, ils les remixent pour les faire résonner à leur façon. Que Godard fasse ça comme un musicien avec l'un de ses westerns de chevet, c'est-à-dire Johnny Guitar, de Nicolas Ray, avec Joan Crawford et Sterling Hayden, c'est-à-dire que l'émotion est encore plus forte si on vous la cache un peu, la citation, si on vous enlève un mot, si on vous la donne pas toute cuite, comme ça, comme font les cuistres. Ouais. Godard n'est pas du tout un cuistre.
Il est... Donc c'est un choc sensoriel ?
Bien sûr.
C'est un choc cérébral ?
C'est non, ni sensoriel, ni cérébral. Pour moi et pour vous, visiblement, c'est un choc émotionnel, c'est un choc sentimental. C'est l'un des plus beaux dialogues qu'on ait écrit entre un homme et une femme dans l'histoire du cinéma.
Alors écoutez ce que Jean-Luc Godard, homme d'image, disait de la télévision il y a fort longtemps.
On ne veut pas voir. La télévision veut surtout pas voir. Il suffirait de montrer. La télé est si mauvaise à cause de ça, si vous voulez. C'est que ça part du texte toujours, jamais des images. Donc on n'a pas besoin d'images. On n'en a pas besoin et ça fait peur. Or, si vous voulez, moi j'en ai besoin pour ma santé physique. Et si je suis un con, j'ai besoin d'une image qui me le montre. Parce que si vous faites comme le dire, je vous crois pas forcément.
On ne peut pas regarder une image à la télévision sans qu'une voix soit là pour nous expliquer par-dessus ce qu'on est en train de voir, précisément ce qu'on est en train de voir.
Non, mais
donc,
là, il a tellement
à la
raison.
Télévision, l'image ne sert plus à rien.
Non, mais c'est là, pour ça qu'il dit, il a tellement raison. Il a tellement raison, ça fait 30 ans que le malheureux, tout seul dans son coin, il dit ça et qu'on ne le prend pas au sérieux. Mais en une seule phrase, il a raison. Enfin, le journal de 20h que je regarderai ce soir à 20h, au lieu de me montrer quelque chose,
va me
montrer un papier peint, genre on va voir des gens sur les quais de la Seine en train de regarder un truc, et par-dessus ça, on va me mettre une voix off qui va me parler de Notre-Dame. Ouais. Alors que ça serait tellement plus simple de montrer pendant 15 secondes, sans voix off, dans quel état est Notre-Dame. Eh bien, ça, ils ne le font pas. Oui. Et Godard constate ça, c'est difficile de lui donner tort. Enfin, on n'arrête pas d'illustrer des propos à la télévision. C'est pas un reproche, c'est une constatation. On illustre des propos. Je l'ai fait aussi, tout le monde fait ça. Ce que dit Godard, et c'est ça sa singularité, c'est que les gens soient se méfient de l'image. Mmh. Maintenant, on fait du décodage, du décryptage. Enfin, l'image est menteuse. Voilà, oui. On s'est mis ça dans la tête. Il fallait pas croire les images. Les gens se méfient, se défient des images. Godard, c'est exactement l'inverse. Il dit, mais s'il y a une image, regardez-la et regardez ce qu'elle vous montre. Elle est là pour ça.
Mais de là à sacraliser l'image, il y a encore un pas. On va écouter ce qu'il dit de la représentation. À mon avis, c'est magnifique.
Dans l'ombre de l'Occident, il est certain que la représentation, plus particulièrement l'acte de représenter, est sans doute devenu, implique presque toujours une violence envers le sujet de la représentation. Il y a un réel contraste entre la violence de l'acte de représenter et le calme intérieur de la représentation elle-même.
Comment, Frédéric Bonneau, peut-on placer aussi haut la valeur de l'image et ne pas la sacraliser ? Il ne respecte rien, ce monsieur Godard. Il cite, il pompe tout le cinéma mondial, des Dents de la Mer à Fellini, il taille, il hache, il mixe, il colorise, et il piétine autant ses propres films, parce que, évidemment, le livre d'images en est truffé, que ceux des autres. Oui, et même, il se permet des blagues. Oui, et il fait des calembours.
Oui, mais il a raison. Alors là, il a une formule assez géniale, comme toujours. Il dit, quand on lui dit, par exemple, est-ce que, cher monsieur, j'ai le droit de vous faucher un extrait d'À bout de souffle? Et là, il répond, je vais pas vous limiter, rassurez-vous. Il répond, mais non seulement c'est votre droit, mais c'est votre devoir. C'est-à-dire qu'il ne croit pas au droit d'auteur. Il y a aussi ça chez Godard. Mais bien sûr, pas du tout. Alors, il doit encaisser quelques chèques en tant qu'auteur quand, par exemple, À bout de souffle passe sur Arte. Mais il ne vit pas sur ses propres films et sur la montagne de droits que représenteraient ses films. Comme tous les cinéastes, c'est un voleur, il s'assume, et il estime que les auteurs n'ont que des devoirs et pas des droits. Et franchement, ça nous change. Parce que moi, mais je connais des gens, vous voyez, je dirige une cinémathèque, autant il y a des ayants droits formidables avec lesquels on peut travailler, autant il y a des milliers de films que vous ne voyez plus, qu'on n'a pas le droit de voir, parce que, comme on dit, il y a des problèmes de droits. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se battent pour savoir à qui ils appartiennent, alors qu'ils ne les ont pas du tout produits, et à qui doit aller les 4 sous qu'ils peuvent peut-être générer. Donc c'est insupportable. Godard, il dit, les choses sont disponibles, essayons de les regarder.
Toujours l'image, le film ouvre sur quelque chose qui émeut profondément. Ce sont des mains très âgées qui, à l'ancienne, coupent de la pellicule et même nouent des morceaux de pellicule ensemble avec une épingle à nourrice. Et puis, il y a un titre, image, avec donc ce mot, image, qui est écrit à l'écran, et il y a la photo d'une main. Donc l'image comme artefact. C'est très, enfin, je trouve ça très, très émouvant.
Ce que dit Godard, alors d'abord, il fauche, y compris à des gens qu'il connaît pas et qui peuvent être des amis à moi. Par exemple, les mains dont vous parlez, qui déroulent ce ruban de pellicule sur une enrouleuse, et ce ruban de pellicule est en train de se dégrader. Ouais. Si vous avez bien regardé, il est en décomposition. C'est un immense cinéaste italien qui est peu connu, qui s'appelle Yervant Djanikian, qui a fait ce film, qui s'appelle Transparence, qui dure 8 minutes. Godard l'a pris, il lui a même pas demandé son avis. Mais quand Yervant m'a dit, mais dis donc, il est quand même gonflé, là. J'ai des amis à Cannes, on voit mes mains dans le grand auditorium Lumière, c'est moi qui déroule là le bobineau de pellicule en décomposition. Je lui dis, Yervant, prends-le comme un hommage. C'est le Festival de Cannes et c'est le plus grand cinéaste du monde. Donc il t'a fauché un morceau de ton
et
film.
Puis, y a
mais
cette tout idée ça pour d'artefact. Dire qu'il
pense avec. Oui, mais il pense avec ses mains. Il pense avec ses mains. C'est-à-dire que comme un artisan, il pense avec ses mains. Il prend un bout qu'on peut appeler A, par exemple, et il va le coller à un autre bout qui s'appelle B, et on va voir ce que ça donne. Vous dites que le film est compliqué. C'est vrai qu'il n'est pas simple. Ça serait
Il est déroutant.
Il est déroutant, il est même difficile à décrire. C'est-à-dire que pour le comprendre, il faudrait sûrement arriver à le décrire et il n'est pas facile à décrire. Mais vous avez parlé, par exemple, de la séquence des trains. Bon, Ça, c'est pas d'une originalité folle. Les Césars font ça avec les baisers ou les accidents de voiture. Oui. Les Oscars font ça avec les poursuites de bagnoles ou des choses comme ça. Là, pendant quelques minutes du livre d'images, vous avez effectivement un montage
des trains. Des qui trains qui viennent de toute la cinématographie mondiale et de toutes les époques.
Eh ben ça, Sonia, il n'y a rien à comprendre, franchement, sinon la beauté de la chose est de se dire tout simplement que rien n'est plus cinégénique qu'un train, et que ce qu'il dit, c'est que ça dure depuis quand même 1895, et que vous savez que le premier spectacle cinématographique des Frères Lumière était un train de Villefranche qui entrait en gare de La Ciotat. Et c'est le premier film projeté du monde. Mmh. Donc les trains, ça vient de ça. Et Godard, il dit, regardez tous ces trains, le train, c'est le bruit des trains, c'est donc le roman, c'est le romanesque, c'est les héroïnes de Tolstoï qui se jettent sous des trains, c'est tout ce que vous voyez, c'est pas très difficile. Là, pour le coup, le montage des trains, on est dans la beauté pure.
Pure. Le temps et l'attente.
Lorsque le temps est toujours le trop, et que toutefois le temps manque au temps, dans l'attente, le temps qui permet d'attendre se perd, pour mieux répondre à l'attente. Et l'attente, qui a lieu dans le temps, ouvre le temps à l'absence de temps, où il n'y a pas lieu d'attendre.
C'est aussi un film crépusculaire. Jean-Luc Godard, je l'ai dit, a 88 ans. Oui. Il dit d'ailleurs, un peu plus tard, les histoires vont moins vite que les actions ne s'accomplissent. Et ce film crépusculaire, il est très inquiet, il est très sombre, il est très intranquille. C'est un film politique qui parle de révolution, de contre-révolution, qui parle de pouvoir, qui parle de révolte, qui voit la guerre au cœur même de l'Europe. Et Godard, qui va chercher dans ses propres images du petit soldat à l'époque de la guerre d'Algérie, c'est aussi un Godard politique. Et je me dis que peut-être le grand public ne voit pas Godard comme un cinéaste politique qu'il est en fait depuis très longtemps.
Qu'il est depuis très longtemps, qui s'est beaucoup trompé, comme tout le monde se trompe beaucoup, souvent quand il se mêle de politique. Sur la guerre d'Algérie, on ne peut pas dire qu'il a été du bon côté au bon moment. Voilà, Le Petit Soldat est un film sublime, mais d'un point de vue politique, il est tout à fait critiquable. Et Jean-Luc Godard serait le premier à l'admettre. Il dit, voilà, c'est le film d'un jeune homme de droite, voire d'extrême droite, qui avait des idéaux un peu à la Drieux-La Rochelle. Voilà, on peut parfaitement discuter de ça avec lui. Le maoïsme, on ne peut pas dire non plus que ça soit une grande réussite humaine, et on peut aussi en discuter avec lui. Mais Jean-Luc Godard est quelqu'un qui s'est immergé dans son siècle, parce qu'il sait que le cinéma n'a de valeur que s'il est dans son siècle et que s'il est face à son siècle. Donc il a fait ça toute sa vie. Mais surtout, ce qui est bouleversant dans ce film-là, et ce qui n'est pas difficile à comprendre, c'est que c'est effectivement le film d'un vieux monsieur. Et à un moment, vers la fin du film, vous avez cet extrait du Plaisir d'Ophuls, qui s'appelle Le Bal. Où c'est l'histoire d'un vieux monsieur qui met un masque de jeune homme.
Cette séquence où il tourne jusqu'à épuisement.
Il va à Montmartre et il danse. Et en fait, il tombe d'épuisement. Et quand on enlève son masque, on s'aperçoit que sous le masque du jeune homme, il y a un vieil homme épuisé, mais que ce vieil homme épuisé veut continuer de danser. Enfin, c'est bouleversant, ouais, ça n'a rien de très compliqué.
Ma dernière question, c'est comment Frédéric Bonneau, Jean-Luc Godard, se retrouve-t-il à la télévision, sans sortir en salle?
Dans les Inrecuptibles de la semaine dernière, il avait cette phrase, Jean-Luc Godard, que je trouve vraiment touchante. Il dit ceci, « Je me sens un peu comme un peintre dont les tableaux se sont vendus et ne se vendent plus. » Et ben voilà, maintenant les tableaux, ils passent directement à la télévision. D'un côté, c'est à saisir pour tout un chacun et c'est très bien. Et de l'autre, on n'aura pas l'obscurité de la salle et l'intimité parmi les autres. Et ça, c'est un peu dommage.
Merci beaucoup, Frédéric Bonneau. Le livre d'images de Jean-Luc Godard est donc diffusé ce soir à 22h30 sur Arte.